France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
Il croyait manquer complètement de fantaisie. Il se jugeait éminemment paresseux. Difficile de penser que ce « il » était Raymond Queneau, l'auteur des exercices de style de Pierrot mon ami, de Loin de Rueil, du Dimanche de la vie, de Zazie dans le métro, du journal intime de Sally Marat, etc., etc., et qu'il avait fondé, avec d'autres, l'Oulipo, et qu'il était adhérent de la Société mathématique de France, et sans compter son travail sur les encyclopédies de la Pléiade. Cet homme, évidemment, plein de fantaisie et travailleur, répondait, ou non, aux questions d'André Gillois et de son équipe, non sans marquer, ses interlocuteurs ne pouvaient que s'en apercevoir, une extrême répugnance à donner des réponses précises. On peut le comprendre. Qui êtes-vous, Raymond Queneau? Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 26 novembre 1949.
Veuillez écouter « Qui êtes-vous ?», une émission d'André Gillois avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, le docteur Martin et Jean-Pierre Morfait. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ?» Raymond Queneau, avec André Labarthe, Jean Eberlé, François Perrier, Roger Stéphane et le concours des auditeurs. Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Alliou, Maurice Béard et Gaston Morfait. Montage, Jacques Guinchard.
Je vais aujourd'hui poser la question « Qui êtes-vous ?» à Raymond Queneau et le convier donc, non pas à faire des exercices de style auxquels il est trop accoutumé, mais à répondre à un certain nombre de questions, les unes fort simples et un peu puériles, les autres un peu plus compliquées. Je vais vous demander d'abord, Raymond Queneau, de nous dire, d'après vous, qui vous êtes.
Qui je suis ?
Oui.
Oh, mais c'est,
je vous pose la question, qui êtes-vous ?
Ah oui, bien j'habite... à Neuilly. Je suis un citoyen français et j'ai un métier.
Bon, eh bien, la façon déjà dont Raymond Queneau a répondu en dit long sur son compte. Alors maintenant, je vais vous poser un certain nombre de questions. Quel est pour vous le comble de la misère ?
Il y en a des milliers. C'est toujours un comble, la misère.
Deuxième question, où aimeriez-vous vivre ?
Aucune idée. Partout pareil.
Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ?
Pour toutes.
Quels sont les héros de romans que vous préférez ?
Aucun.
Quel est votre personnage historique favori ?
Oh, encore moins.
Vos héroïnes favorites dans la vie réelle ?
Il y a des héroïnes dans la vie réelle ?
Ah ben oui, il y a Jeanne Hachette, Madame
Roland. Ah, c'est
Roland.
Ça ce que vous appelez la vie réelle?
Ah oui.
Bien alors...
Elle le fut.
Oui. On le dit.
Oui. Jeanne d'Arc.
Vos héroïnes dans la fiction?
Aucune idée.
Votre peintre favori?
Il y en a un certain nombre. Ah non, mais...
Quel est votre peintre favori?
Dans le héros dans la fiction... C'est une question que vous m'avez posée,
oui,
ça.
Oui, oui.
Ah oui, l'idiot de Dostoïevski, Mouchkin.
Bon, alors revenons au peintre.
Vermeer.
Votre musicien favori?
Je n'y connais rien en musique.
Ah, c'est pas une raison pour pas avoir une préférence.
Verdi, la Traviata.
Votre qualité préférée chez l'homme?
Je me fiche la paix.
Votre qualité préférée chez la femme?
Idem.
Je l'attendais.
A fortiori.
Ce n'est pas une qualité préférée, remarquez, c'est plutôt un vœu.
Oui, d'accord.
Qu'elle soit apte à me ficher la paix, quoi, si vous voulez. Tournez ça en qualité.
Quelle est votre vertu préférée ?
Oh, aucune idée. Je ne vois pas.
Quelle est votre occupation préférée ?
Non, ne pas en avoir.
Alors, qu'auriez-vous aimé être ?
Rien d'autre que ce que je suis.
Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel ?
Tous.
La forme d'expression qui est la vôtre vous suffit-elle ou avez-vous le sentiment qu'elle vous limite ?
Oui, certainement.
Qu'elle vous limite ?
Oui.
Que regretterez-vous le plus en mourant et comment voudriez-vous mourir?
Oh, je ne réponds pas à ce genre de questions.
Mais aux autres non plus.
Comment? Mais si. Mais si.
Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer?
Ah, à plaire.
Y a-t-il un auteur qui vous paraisse représenter la vérité au point de modifier votre opinion suivant la
sienne? Oh non, 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 non.
Quelle a été la première émotion de votre vie?
Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance.
À quel âge avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction?
12 ans, je crois. Aucune réaction.
Aucune réaction. Pourriez-vous tout quitter, famille, situation, habitude, pour recommencer votre vie?
Oh oui.
Aimez-vous la vie dangereuse?
Non.
Un bonheur vous paraît-il plus grand s'il est public ou s'il est caché?
Aucune importance.
L'élimination d'un adversaire vous paraît-elle une opération nécessaire ou bien vous procure-t-elle un plaisir?
Ah, je suis contre l'élimination des adversaires.
Que feriez-vous si on vous donnait trois actes de puissance absolue?
Aucun, je n'en ferai aucun. J'ai horreur de la puissance absolue.
Dans quelle époque auriez-vous préféré vivre en admettant que votre condition vous ait permis d'y participer suffisamment?
Je trouve la question parfaitement saugrenue, excusez-moi.
Mais vous avez parfaitement raison. Auriez-vous aimé faire un métier manuel et lequel?
Ah oui, oui. Serrurier, menuisier, oui, oui, oui.
À quel âge avez-vous senti que vous quittiez l'enfance?
Je ne l'ai jamais senti.
Bon, voilà toutes les questions préparées et auxquelles Raymond Queneau a bien voulu répondre ou ne pas répondre. Quand il a répondu, c'était brièvement. Alors maintenant, je vais vous demander si vous avez d'autres questions à lui poser ou déjà quelques commentaires à faire sur les réponses qu'il a faites. Docteur Martin.
Comment avez-vous été amené à choisir comme héros de roman Mnouchkine?
Mais parce qu'il m'est sympathique.
Mais pourquoi vous est-il sympathique?
Parce qu'il est Mnouchkine, parce qu'il est, c'est un certain comportement dans la vie que je trouve éminemment sympathique et qui n'est pas bon. Il n'y a pas beaucoup d'équivalent dans les autres, enfin dans la littérature internationale.
Je vous poserai une deuxième question qui en apparence n'a aucun rapport avec la première. Vous arrive-t-il dans la vie réelle de manifester vis-à-vis de certaines personnes de l'agressivité? Êtes-vous capable de vous mettre en colère, par exemple d'attraper un garçon de café qui vous apportera un demi-tiède?
Oh non, non. Au contraire, je le remercierai.
On s'en doutait.
Bon. Emmanuel Berl.
Moi, je voudrais demander à Queneau ce qu'il croit en ce qui concerne la survie.
Il ne s'agit pas de croire, mais de savoir.
Alors, s'il sait, c'est encore mieux.
Ah, mais justement, je ne sais pas.
Ah bon?
Je ne sais rien. Alors, je me comporte comme si. Comme si je savais qu'il n'y a rien.
Ah.
Jean-Pierre Morfait.
Bon, c'est à peu près cette précision que je voulais demander à Raymond Queneau.
Moi, ce que j'aurais aussi voulu lui demander, pour revenir, alors en revenant à Mnouchkine, c'est, étant donné sa sympathie pour Mnouchkine, comment il arrange ça avec la principale qualité des gens, c'est de me fiche la paix, ce qui est une réponse peu mnouchkinienne.
Ah, je ne vois pas tellement la contradiction.
Parce que Mnouchkine passe son temps à ne fiche la paix à personne, il relance tout le monde, il ennuie tout le monde.
Ah, mais peut-être que j'ennuie tout le monde, moi. Je demande aux autres, c'est peut-être une...
Ah, ben, il n'avait pas peur qu'on l'ennuie, Mnouchkine.
Oui, vous savez, on m'ennuie aussi pas mal dans la vie.
Et vous le supportez, en somme, assez bien.
Assez bien, oui.
Vous n'êtes pas impatient de nature quand on vous ennuie.
Bon, ça finit par arriver, mais non, pas à l'origine.
Enfin, il faut en mettre beaucoup.
Il faut en mettre beaucoup.
Et alors, ça vous amuse?
Les gens qui en mettent beaucoup, ils m'amusent aussi.
Bon, pas d'autres questions?
Est-ce que vous êtes très profondément heurté par la découverte chez quelqu'un à qui vous portiez de l'estime, du mensonge ou de l'hypocrisie?
Oh, non.
C'est courant.
C'est courant. Non, mais je ne vois rien d'anormal ni de... Non, il en faut un peu.
Il faut tout.
Oui, il faut tout pour faire un monde.
Est-ce que, étant plus jeune, ou même maintenant, vous avez parfois certains scrupules ou certains doutes concernant des petits faits de la vie quotidienne? Par exemple, est-ce que vous êtes un homme à vous relever une fois que vous êtes couché pour voir si le compteur à gaz est bien fermé?
Oh non, non. Une fois que j'ai couché, je suis bien couché.
Et vous aimez rester couché?
Ah oui, oui.
Mais vous aimez...
Éminemment paresseux.
Éminemment paresseux.
Ah oui.
Bon. Maurice Clavel? Ah pardon, j'ai pris...
Et Vermeer dans tout ça?
Ben, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Non, mais je citais Vermeer, il y en a d'autres.
Enfin. Vermeer ne l'oblige pas à se lever quand il est couché.
Mais pourquoi Jeanne d'Arc?
Ah, c'est un personnage intéressant, unique. Par pure curiosité, mais enfin...
Oui, ça n'est pas...
Enfin, je n'aime pas les personnages historiques, parce que précisément, ils n'ont pas laissé les gens tranquilles, mais je suis un faible pour Jeanne d'Arc.
Oh, il y en a qui ont laissé les gens tranquilles, par exemple le Masque de Fer. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il
a...
Docteur.
Je crois que, en parlant du prince Mushkine, inconsciemment, vous vous êtes plus ou moins identifié avec lui. Non pas que vous vous traitiez vous-même d'idiot, bien sûr, mais Mushkine n'est pas véritable idiot.
Non, bien sûr. C'est bien comme ça que je l'entends.
On a l'impression, et je répondrai là à Emmanuel Berle, que tout de même, le héros de Dostoïevski cherche à ce qu'on lui fiche la paix en s'abritant derrière un masque et derrière un rôle qu'il s'astreint à jouer. Et dans les réponses que nous a faites Raymond Queneau, j'ai l'impression que de la première question à la dernière, il y a là un mur derrière lequel il s'abrite pour cacher sa véritable personnalité.
Oui, il est gros, le mur.
Moi, je crois que ce mur, c'est sa personnalité.
Oui, exactement.
Et je crois qu'il faudrait chercher loin pour aller trouver l'inconscience de Raymond Queneau.
Oh, l'inconscience, on la trouverait toujours.
Vous n'avez que de la conscience.
Ce qui m'étonne un peu, c'est que je ne trouvais pas Mushkine un homme qui joue un rôle.
Comment qu'il ne joue pas un rôle?
Enfin, je ne trouve pas que ce soit un homme qui joue un personnage pour défendre... son propre inconscient, en fait.
Justement, c'est ça ce qui me plaît, c'est quelqu'un qui ne joue pas un rôle.
Ah oui, mais lui dit qu'il en joue un. Oh, alors, vous n'étiez pas tout à fait d'accord.
Non, d'abord, je n'ai pas l'impression de construire un mur, parce que si mur il y a, comme je le disais, il est...
Je suis le mur.
Il est un petit peu épais, enfin, il est visible à l'œil nu.
Moi, je me méfie des murs visibles à l'œil nu, précisément. Le vôtre est trop apparent.
Oui, c'est l'histoire de la lettre volée.
Oui.
Bon, pas d'autres questions?
Et regrettez-vous vraiment de ne pas être sensible à la musique? Ou bien est-ce qu'une fois pour toutes, vous en avez fait abandon?
Non, je n'y connais pas grand-chose.
Vous ne croyez pas que ça, c'est la question des épinards? En plus de...
Oui.
On peut avoir une certaine mélancolie sans qu'on ne possède pas.
Oui.
Bon, le docteur Martin n'a pas posé sa question habituelle, alors je la poserai à sa place.
Je vous en prie.
Bon, quel est votre plus ancien souvenir?
Justement, je n'en ai pas. Ils sont très... Oui, je n'ai pas de souvenir d'enfance lointain.
Quel est le moins récent?
Le moins récent... vous me posez des questions. J'ai été psychanalysé, enfin j'ai fait des séances de psychanalyse pendant un certain temps. Bien, on n'est jamais arrivé à le trouver. Enfin, je ne sais pas, manger de la salade, enfin, des petites choses comme ça, enfin, en apparence.
Non, mais quand vous dites que vous n'avez aucun souvenir d'enfance, je pense que c'est une formule et que vous en avez tout de même quelques-uns. Parce que quand vous cherchez...
Oui, pas antérieur à, je sais pas, 6 ans, 5 ans.
Ah bah oui.
Alors, contentons-nous de cela, puisque vous ne voulez pas nous donner plus. Enfin, qu'est-ce que vous vous rappelez de vous à 5 ou 6 ans?
Je vous dis, un jour avoir mangé de la salade.
Bah, c'est déjà ça. Ça s'est renouvelé depuis ou bien est-ce que vous...
Non, j'ai horreur de la salade, exactement. Je n'aime pas la salade, non plus des épinards.
Est-ce que vous aimez votre métier?
Ah oui, oui. Lequel, enfin?
Votre métier littéraire.
Ah, le métier littéraire, oui, enfin, c'est décevant, mais enfin, je l'aime.
Et en quoi est-ce décevant?
C'est Enfin, c'est un peu futile quand même.
Ah, mais alors, est-ce que vous cherchez autre chose que cette futilité?
Oui, bien sûr.
Mais quoi?
Que ce soit moins futile. Bien sûr, évidemment. Bien sûr,
mais enfin, comment, alors, je prends le cas de vos célèbres exercices de style, n'est-ce pas? Vous ne cherchez pas autre chose. Je ne cherche pas autre chose. Alors, je crois même qu'à propos à propos de beaucoup de choses que vous faites, vous ne cherchez jamais à aller plus loin. Vous ne cherchez jamais autre chose parce que ce sont des choses assez parfaites et suffisantes en elles-mêmes.
Je crois qu'à propos des exercices de style, il y a quand même quelque chose de plus. Il y a une satisfaction d'ordre sensuel à manier les mots et à s'en servir de toutes les manières possibles.
Oui, ça, en effet, j'aime. C'est pour ça que j'aurais aimé un métier manuel.
Vous aimez le verbe?
J'aime le verbe, mais j'aime le bois.
Et aimez-vous la poésie? Je m'excuse de l'idiotie apparente de ces questions.
Aimez-vous la poésie? Oui. Et laquelle?
Ah, la belle poésie.
Oui, mais...
Une poésie avec qui chante.
Qui chante?
Ah oui,
mais c'est le côté Verdi.
Ah oui.
Oui, mais la poésie plus secrète et enfin la...
Oh, aussi, j'ai une certaine largeur d'esprit. Ça.
Mais dites-moi, vous nous dites que ce que vous faites est futile. Qu'est-ce que vous considérez qui n'est pas futile?
Bon, pas grand-chose.
Mais alors, par rapport à quoi est-ce que c'est futile?
Par rapport à sa propre futilité, bien sûr.
C'est ce qu'on appelle
un cercle vicieux.
Non, il n'y a de léger que par le lourd, n'est-ce pas?
Ah, ça, ce n'est pas sûr. Non, on peut très, très bien juger une négation par rapport à une autre négation.
À propos de ces signes algébriques de négation, je crois que vous avez une assez forte culture mathématique.
Forte, j'aime ça.
Vous remarquez...
J'aurais voulu.
Vous remarquerez en tout cas...
Premier regret.
Oui, c'est exact.
Vous remarquerez l'extrême répugnance que vous éprouvez à faire une réponse précise. Dans votre façon de répondre à nos questions, vous avez l'air d'un escrimeur qui rompt à chaque instant. Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé du mur. On n'a pas eu l'air d'accepter mon interprétation et on a pris le mur pour votre véritable personnalité. Moi, je continue à croire, je persiste à croire que ce mur cache quelque chose. Et en tout cas, il cache vos souvenirs d'enfance. Car il y a tout de même un certain parallélisme entre l'aspect que vous donnez de votre personnalité actuelle et puis ce voile que vous avez jeté sur toute une partie de vos souvenirs infantiles.
Oui. Oui, peut-être que ça ne m'amuse pas beaucoup d'en parler, quand même.
Ah. Bon, est-ce qu'il y a des choses dont il vous amuserait de parler?
Non.
Alors, pour en revenir à la futilité, il y a une chose que vous regrettez de ne pas avoir faite plus profondément, ce sont des mathématiques.
Oui.
Alors, vous ne les considérez pas, elles, comme futiles?
Ah, non.
Ah. Alors, nous tenons déjà quelque chose de solide.
Ah oui, ça, c'est solide. Bon. Oui.
Alors, mais sur le même plan que les mathématiques, en fait, considérez-vous les sciences dans leur ensemble comme non futiles et solides, ou est-ce seulement les mathématiques?
C'est la seule science.
C'est la seule science.
Le reste en dépend. Le reste, ce sont des futilités, justement, et à propos de cet essentiel.
Je crois que dans votre métier, il vous arrive souvent de lire beaucoup de manuscrits, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que vous avez de grandes émotions de découverte? Ah, je dirais que la découverte vous fait une émotion chaude, une pulsation intérieure.
Oui, j'éprouve de l'enthousiasme quand je lis un bon manuscrit.
Et quel qu'il soit, enfin, vous n'avez pas, vous vous sentez un goût, enfin, vous essayez d'avoir goût universel pour quelque genre de littérature que ce soit.
Je pense être objectif, mais j'ai toujours une espèce de fraîcheur devant un bon manuscrit. Je conserve toujours un enthousiasme.
Mais objectif par rapport à quoi, puisque nous sommes dans la futilité?
Objectif par rapport à la maison d'édition pour laquelle je lis.
Non, mais cet enthousiasme personnel est tout de même plus spontané. Vous ne vous dites pas à ce moment-là, ça va être une bonne affaire
pour la maison d'édition. Non, bien sûr. Ah, mais j'ai un grand respect pour la littérature, quand même.
Oui.
Je ne veux pas dire si ce que je fais me semble parfois futile. Je ne veux quand même pas dire que l'ensemble de l'activité verbale de l'homme soit une futilité totale.
Donc la littérature se place, pour, à vos yeux, à côté des mathématiques.
Oui, oui.
Un petit peu en dessous.
C'est une autre forme de langage.
Une autre forme de langage.
Est-ce que dans vos exercices de style, je reviens encore sur cet ouvrage, est-ce que vous n'avez pas essayé, peut-être inconsciemment, de concilier votre amour des mathématiques, c'est-à-dire de la chose précise, avec un maniement du verbe fait dans de telles conditions qu'on peut y apercevoir, par exemple, un échange entre facteurs, une permutation entre différents facteurs d'une, de quelque chose d'exact.
Oui, certainement. D'ailleurs, le projet original était beaucoup plus... Enfin, il y en a fait encore un plus grand nombre, mais la paresse m'a fait cesser.
Au bout d'une centaine.
Et puis là, justement... là, j'ai pas voulu trop embêter le lecteur.
Mais, enfin, si vos exercices de style ont un sens profond, et je m'excuse de vous diagnostiquer ainsi, c'est la fin de toute littérature.
Non, c'est décanter, enfin décanter, décaper plutôt la littérature de des choses futiles que souvent on n'aperçoit pas. Et là, peut-être, ces choses futiles sont-elles mises en valeur pour... précisément atteindre une moindre futilité.
Ah, est-ce que tout simplement, ce que vous appelez futile, ce n'est pas l'affectivité ? Et que vous cherchez à croire vous-même que tout ce qui n'est pas intellectuel est futile, parce que vous avez essayé d'incarcérer vos émotions et votre affectivité ?
Non, ça je ne crois pas. Je pense que si vous aviez posé d'autres questions sous un autre angle, j'aurais peut-être pu manifester mon affectivité.
Quelle question, par exemple?
Je ne vous suggérerai pas ces questions.
Il faudrait lui demander, en effet, si tout, d'abord, il ne nous l'a pas dit dans sa définition du même, est-ce qu'il a des enfants, par exemple?
Oui, un.
Ben alors, probablement qu'en effet, l'affectivité ressortirait plus si on l'interrogeait sur cet enfant que sur les manuscrits qu'il a lus il y a 3 ans.
Certainement.
C'est assez normal, d'ailleurs.
Mais il n'a pas dit qu'il était anormal.
Est-ce que cette affectivité que vous révéleriez, que vous auriez révélée si on vous avait interrogé sur vos enfants ou votre femme, est considérée par vous comme une faiblesse?
Non.
Comme une force ou comme un fait?
Absolument pas. D'ailleurs, il me semble que le héros que j'ai choisi n'est pas un intellectuel... desséché. Le prince Mouchkine, il me paraît au contraire débordé d'affectivité.
Oui, mais je crois en effet, pour répondre au docteur Martin, que ce serait plutôt, en gros, presque toutes les choses de l'esprit qui paraîtraient futilité à Queneau, et puisque son travail me paraît être, je vous dis, une négation assez gigantesque. Moi, je vois dans ses exercices de style une sorte de mort de la littérature et de presque toute la littérature à laquelle peu de choses ont chance de survivre. Je crois que c'est peut-être pas cela que vous avez ambitionné expressément.
Non, enfin, je crois avoir dit à peu près le contraire tout à l'heure.
Mais enfin, c'est terrible, vous comprenez, c'est terrible pour ceux qui prétendent que la littérature est quelque chose, ceux qui prétendent avoir un style, en fait, etc., parce que ça va beaucoup plus loin que le pastiche. Ça va.
Là, il n'y a qu'un jeu, je crois.
Je ne crois pas que ce soit qu'un jeu chez vous.
Non, enfin, pour moi, ce n'est pas... D'ailleurs, je trouve que les jeux sont... C'est une des activités les plus importantes de l'homme et les plus intéressantes à étudier.
Que pensez-vous du théâtre?
Pas grand-chose.
Est-ce que vous aimez...
Je ne connais pas, je n'y vais que très rarement.
Et quand vous y allez, êtes-vous... Quel spectateur êtes-vous?
Très mauvais spectateur. Au fond, je n'aime pas le théâtre.
Est-ce que vous est-il arrivé d'être ému au théâtre?
Non. Je ne me souviens pas. Ça me paraît justement un jeu. Je m'excuse de vous dire ça. Justement, c'est un faux jeu. C'est un faux jeu. Pour moi, ça n'est pas intéressant. Je m'excuse beaucoup, mais le théâtre me laisse... Enfin, c'est très lointain pour moi.
Et le cinéma?
Ah, non, ça c'est tout à fait différent.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ça, c'est précisément un vrai jeu. C'est parce que c'est une chose qui se passe sur une toile. C'est essayer de rendre la vie sur un morceau de drap blanc, alors que le théâtre a la prétention, par la présence d'êtres vivants réels, à avoir une certaine réalité qu'il n'a pas. Tandis que le cinéma se limite à lui-même, on sait très bien ce que c'est que le cinéma.
Et le cirque?
Ah, c'est agréable.
Ben, c'est un jeu, bien entendu.
Oui, le cirque, c'est très joli.
Lorsqu'on vous a demandé si vous seriez disposé à tout quitter du jour au lendemain, vous avez répondu oui, très facilement.
Oui.
Mais jusqu'y compris votre femme, votre enfant, vos...
Ça va de soi, la question est...
et pourtant, c'est sur
Oui.
C'est sur ce plan que vous consentiez à avoir une certaine affectivité.
Oui.
Alors ça ne s'arrange pas très bien.
Non.
Ça n'exclut pas.
Ça ne s'arrange pas non plus très mal.
Est-ce que vous seriez capable de quitter des choses de cet ordre par... je ne dis pas au nom d'une nécessité supérieure ou suprême, d'ailleurs je ne vois pas quelle nécessité supérieure ou suprême vous reconnaîtriez, mais par caprice ou par demi-gratuité?
Non.
Non,
non, pas par caprice.
Non, pas, non. La fantaisie ne vous en prendrait pas?
Oh non, je crois manquer à peu près totalement de fantaisie.
Vous avez un genre de fantaisie?
Oui, pas dans l'existence.
Non, non. Je suis un bon citoyen.
C'est ce que vous avez commencé par dire.
Oui. Et il y avait Neuilly, le citoyen français, le métier. Et que pensez-vous de Neuilly?
C'est une aimable plaisanterie.
Quelle est l'âme de Neuilly?
Êtes-vous bon public dans la vie, si vous ne l'êtes pas au théâtre?
Qu'entendez-vous par là?
Êtes-vous bon spectateur et spectateur plus ou moins participant des activités des autres? Ou bien est-ce que tout cela vous paraît un peu inutile et un peu ennuyeux?
Oh non, non. En tout cas, au cinéma, je suis très bon spectateur.
Vous lisez le journal?
Oui, oui, oui.
Ça vous intéresse?
Ah oui, oui, bien sûr, c'est très amusant.
C'est un jeu.
Ah, c'est très amusant.
Et est-ce que vous êtes sensible au spectacle de la rue?
Oui, bien sûr, oui.
Vous êtes badaud?
Je suis badaud, oui, oui.
Docteur?
Je voudrais vous poser une question à propos du théâtre et du cinéma. Au fond, quand vous allez au théâtre, vous y allez... avec le désir de ne pas vous laisser prendre à ce jeu, à cette convention qu'est le théâtre. Et quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous vous reconnaissez le droit de vous abandonner à vos émotions. Je crois que, là je vous pose une question, qu'il y a une différence essentielle, c'est que lorsque vous êtes au cinéma dans le noir, vous voyez, mais on ne vous voit pas, et qu'au théâtre, malgré tout, on vous voit. Au moins pendant les entr'actes, quand la lumière se rallume. En tout cas, la présence des spectateurs... se manifeste d'une manière plus concrète qu'au cinéma. Et je me demande si ça ne joue pas un rôle dans cette différence de comportement.
C'est probable. Les entr'actes, c'est abominable. Les entr'actes. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas le théâtre.
Mais est-ce que vous ne... Qu'aimez-vous au cinéma? Est-ce que les bons ou les mauvais films ne vous sont pas indifférents? Est-ce que vous n'avez pas un faible pour certains mauvais films?
Oui, j'aime plutôt les mauvais.
Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais.
Ils n'ont pas de goût, quand même.
Et,
certains.
Vous aimez les actualités au cinéma, maintenant?
Oui, oui. Enfin, ça dépend. Enfin,
c'est pas très
c'est un art difficile que celui des actualités. Enfin, non, mais quand c'est réussi, c'est passionnant.
Non, mais je veux dire, dans un spectacle de cinéma qui se compose en général d'un grand film... de quelques minutes d'actualité et d'un dessin animé, auquel de ces films va vous préférer?
Enfin, un dessin animé. Ensuite, oui, le grand film après les actualités.
Les actualités en dernier, tout de même.
Oui.
Docteur Martin.
Je voudrais vous poser une question à propos de vos lunettes. Au spectacle, au théâtre ou au cinéma, il y a là quelque chose que l'on voit.
Oui.
Vous rappelez-vous à quel âge vous avez commencé à porter des lunettes? Quand vous avez pris conscience de votre myopie?
21 ans, je crois.
Et quel effet ça vous a fait?
Un effet désagréable.
Quel effet, par exemple?
Je trouvais ça une obligation fort ennuyeuse.
Et vous n'avez pas eu besoin de porter de verre avant 20 ans?
Non, je n'ai porté, 20 ans, oui, c'est ça.
Comment vous êtes-vous aperçu que vous étiez myope? Vous rappelez-vous?
Je ne me souviens plus très bien. Enfin, c'est venu...
spontanément.
Je ne sais plus. Oui, c'est peut-être à cause de l'écaille qui, à ce moment-là, commençait à être à la mode. Je ne sais pas.
Et comment vous est venu votre goût d'écrire?
Je crois qu'il ne m'est pas venu. Je l'ai toujours eu.
Vous l'avez toujours eu?
Oui.
Et pourtant, vous regrettez de ne pas avoir fait de mathématiques. Alors, quand, quand vous étiez en classe, vous étiez tenté par quel ordre de discipline ?
Les deux.
Les deux. Et, vous et pourquoi n'avez-vous pas opté pour les sciences ?
Parce que j'ai fait, oh, j'ai fait du grec parce que je trouvais ça plus, plus élégant.
On ne vous y a pas obligé, c'est vous qui avez
choisi. Non, au contraire, j'ai choisi le grec. Vous J'étais un des rares élèves qui l'ait choisi. Mais c'était par, ça, c'était par fantaisie.
Par fantaisie, avec le regret de ce que vous laissiez.
Oui.
Alors vous êtes un peu obligé à abandonner ce que vous souhaitiez de faire.
Oui, oui. Plus tard, j'ai un peu repris, mais je c'était trop tard.
Et est-ce que vous avez toujours écrit dans votre ton, ou est-ce qu'il y a des manuscrits de jeunesse de vous, non publiés, mais qui sont dans un ton différent ?
J'ai relu des, je sais pas, oui, des choses de jeunesse de moi. Il y a, je sais pas, oui, un petit quelque chose. C'est pas tellement différent.
C'est pas tellement différent ?
Non.
Vous n'avez pas eu d'œuvres tumultueuses, d'œuvres... d'œuvres de littérature sincère, émouvante, émue.
Non, je ne crois pas. Non, non. C'est resté. En... D'ailleurs, tout ça est resté fragmentaire.
Est-ce que dans vos œuvres, je m'excuse, c'est très indiscret de poser ces questions-là, mais. Nous n'en sommes plus à ceci près. Dans vos premières œuvres, dans vos manuscrits, vous deviez forcément plus ou moins imiter certains gens. Qui imitiez-vous ? À qui ça vous fait penser quand vous relisez des, pour vos premières œuvres ?
J'ai imité Joyce, Faulkner, voilà, oui. Et puis peut-être d'autres aussi. Mais enfin...
Et est-ce que vous vous rappelez votre découverte de Joyce ?
Oui.
Ça a dû être une très grande émotion pour vous.
Oui, ah oui, j'ai lu ça avec la plus grande attention et le plus grand enthousiasme.
Vous aviez quel âge ?
Trentaine d'années, je ne sais pas, c'est assez tard. Enfin, je l'ai lu en français d'abord. Mmh. La traduction a fermé.
Et vous ne vous rappelez pas des enthousiasmes du même ordre que vous auriez eu dans votre jeunesse, alors, ou dans votre enfance, puisque 30 ans est encore très jeune.
Oh, ben, j'ai eu les enthousiasmes classiques pour Rimbaud, pour Lautréamont, etc. Puis avant pour Léon Blois et Macorlan.
Bien, vous n'avez
d'autres
pas...
aussi.
D'autres
aussi.
Enfin, que sont devenus ce pour Rimbaud et Lautréamont ?
Ben, ils n'ont pas changé.
Vous avez gardé ces enthousiasmes.
Oui.
Et Léon Blois ?
Non.
C'est fini ?
Oui.
La rompu.
Les rompus. Non, je respecte beaucoup Léon Blois, mais enfin, c'est tout à fait en dehors de mes préoccupations. C'est très loin
et,
de moi.
Et en dehors de Léon Blois, est-ce qu'il y a des enthousiasmes de vos débuts ? Avec lesquels vous ayez rompu ?
Oh, presque tous. Il y a Pavlovski, Le voyage au pays de la quatrième dimension, ouais. Qui est un grand livre que j'aime toujours.
Bon, est-ce que vous aimez les romans faciles, les livres idiots, les peintures naïves, vous savez, ou comme dire un bon, la musique de foire
Non, pas tellement. Non. Pas tellement.
Et si vous n'avez pas d'autres questions à poser à Raymond Queneau, on a été d'une indiscrétion suffisante, je pense. Mais enfin, il ne s'est pas mis en colère jusqu'à présent.
Je l'en crois fort incapable.
Eh bien, je n'ai plus qu'à l'en remercier et à nous excuser de tant d'indiscrétions.
Qui êtes-vous, Raymond Queneau ? Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 26 novembre 1949.